je crois que j'ai fait une découverte capitale dans les vestiges Candoriens. Un recueil concernant les pratiques d'inhumation des anciens sumériens et contenant également des incantations funéraires. Il est intitulé « Padura de Bronto », ce qui veut dire mot à mot « le livre de la mort ». Ce livre est relié en peau humaine et écrit avec du sang humain.
Pourquoi tu fais ça?
Ah, tu veux que je te le dise? Ça n'a rien de sorcier. Je suis le méchant.
Chers amis, c'est l'heure. L'heure de quoi? Mais l'heure du crime, bien sûr. Un crime sale, pas un simple fait divers, quelque chose de voyant et surtout quelque chose de bruyant. Bonjour à tous et bienvenue dans la 9e saison des Comptines du Forgeron, votre émission métal tous les dimanches de 17h à 18h, avec de multiples rediffusions tout au long de la semaine. Adrien au micro, et alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale parce que pour tout vous dire, on était un petit peu patraque aujourd'hui avec l'équipe et du coup on a décidé qu'on allait rester chez nous et nous reposer, mais on a quand même pensé à vous pour être sûr que vous puissiez avoir votre petite dose hebdomadaire de métal. Et aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale qui contiendra un total de 3 interviews, à savoir l'interview de Titan's Rage, de Kamisolka, réalisée par Vivien et Julien lors du Hotfest, donc 2 interviews, et une interview de Not Scientist, réalisée par moi-même et par Tony Toulier de Radio Pulse à Alençon, à qui je fais un petit coucou, lors du festival Motocultor. On espère que ça vous plaira et on vous dit à la semaine prochaine.
Bonjour à toutes et à tous, aux auditeurs et aux éditrices de Comptines du Forgeron sur PFM. Voilà, aujourd'hui, Vivien et moi, on est au Hotfest pour la première édition et nous avons la chance d'avoir en interview le leader et le chanteur du Titan's Rage. Bonjour Olivier.
Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde.
Donc, la première question est assez classique. Hein. Titan's Rage est un groupe franco-belge assez jeune, mais avec des membres, je pense particulièrement à Guy et à toi, qui ont déjà une belle expérience dans le métal. Peux-tu nous raconter la naissance du groupe?
Disons que avec tous nos groupes respectifs depuis de nombreuses années, en fait, on se croisait régulièrement, Guy et moi, en fait, et en ayant toujours l'espoir ou l'idée, on va dire, de faire un groupe ensemble. Et le confinement qui a porté beaucoup de malheur, nous, ça nous a permis justement d'être inactifs et de pouvoir composer à deux. Et Titan's Rage est né comme ça. Ouais.
Vous jouez un métal typé très 80s. Quelles sont vos influences, vos groupes de chevet et les groupes qui vous rapprochent à tous dans le groupe?
Il n'y a pas vraiment de groupe qui nous rapproche tous. En fait, on a chaque musicien a vraiment sa vie musicale. Comme moi, je serais plus années 70, Deep Purple, Rainbow, enfin tout ce style-là. Guy un peu plus métal allemand. Les deux guitaristes, Thomas et Patrick sont plus à la limite du death metal, donc un peu plus brut. Et le batteur qui fait partie de Drakkar, en fait, lui, c'est pareil. Quoi. Il est vraiment très, très percutant, en fait. Et donc, le mélange, ça fait il y a un petit peu de brutalité, un petit peu de mélodie, de la rapidité. Et puis, voilà. Et puis, de la puissance, on espère.
Vous êtes chez Stilsal Records, ce qui est totalement cohérent avec le catalogue que le label propose. Comment êtes-vous arrivé sur Stilsal Records?
C'est-à-dire que le président Stilsal Records, c'est Pascal Clair, on dit Rascal, moi je le connaissais en tant qu'écrivain, en fait. Il a écrit beaucoup de livres, en fait, sur les groupes français, donc il a fait vraiment beaucoup, beaucoup pour la scène française. Et j'ai pas tipé vraiment qu'il faisait partie d'un label, en fait. Et une fois, en fait, on discute, il me dit, dis, on voit. Donc j'ai envoyé 2 morceaux, il m'a dit, on signe. Donc, voilà. Donc on est tombé, je pense, pile poil dans son créneau qu'il aime, en fait.
Ouais. Exactement. Le visuel de Never Surrender, premier album, colle très bien avec le nom du groupe, je trouve. On voit vraiment ces titans, ces mastodontes comme ça. Qui a élaboré cet artwork?
C'est le célèbre Jack Raven. Non, je dis célèbre, mais en fait, il fait partie un petit peu de l'équipe de Stilsal Records. Et on a vraiment craqué pour ce qu'il faisait comme dessin, en fait. Et on lui a demandé de faire le premier album. Et je pense qu'il sera là aussi pour le deuxième album qui va sortir l'année prochaine.
Il me semble que le line-up a évolué depuis la sortie de ce premier album, Never Surrender. Peux-tu nous présenter les nouveaux membres?
Tout à fait. Et donc, le batteur nous a rejoint, donc le batteur de Drakkar, Adrien, qui fait partie de Drakkar, et de Titan's Rage, qui est très très percutant, qui a amené une énergie vraiment énorme. Les deux guitaristes, en fait, Patrick Diventi et Thomas Van Orek, eux, ils faisaient partie de Inner Fire, qui est un groupe de death metal belge, en fait, mais qui a fait 2 albums. album et qu'on fera une grosse tournée internationale. Guy, c'est une institution en Belgique, en fait, qui a fait beaucoup, beaucoup de groupes, dont Drakkar, en fait, avec le célèbre X-Rated. Donc, c'est vraiment le fondateur de Drakkar, vraiment, voilà. Et Olive, chanteur, moi-même. Donc, en France, bon, j'étais un peu connu au niveau de groupe Rose, en fait, qui a fait quand même pas mal d'albums. Et puis, le groupe Black White et Kublai Khan, ouais.
Comment se passe la composition au sein de Titans Rage ? Notamment, comme vous l'avez souligné très justement, c'est un groupe franco-belge. Donc peut-être pour répéter, ça peut être compliqué. Comment ça se passe ?
C'est le chanteur qui se tape tout. Donc déjà, il fallait un chanteur français pour relever le niveau, parce que des Belges, ça c'était pas possible. Donc c'est moi qui me déplace. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un mélange d'influences. C'est-à-dire que le guitariste ramène un riff, moi je ramène le pont, on ramène le refrain, je ramène le chant. Suite au chant, bah, du coup, le guitariste part sur autre chose. Voilà, c'est vraiment un mélange d'influences et bien un mélange d'idées. C'est ce qui fait la richesse, on va dire, d'un groupe normalement.
Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du Hotfest pour sa première édition. Comment vous êtes-vous retrouvé programmé sur cette affiche ?
On nous a contacté en fait pour faire un festival, donc sans savoir à la base que c'était pour une œuvre caritative. Donc on a accepté en fait, et dès le moment où on a su que c'était vraiment pour l'autisme, en fait, on a baissé toutes nos exigences et on est venu avec encore plus de plaisir. Vraiment, c'est important d'aider cet organisme en fait, car l'autisme en fait, bon, il est présent beaucoup en France et partout, et peu connu et pas beaucoup vraiment d'institutions en fait pour les aider. Donc c'est important vraiment de ramener beaucoup d'argent pour eux.
Shout! Welcome to Marine.
Donc Titans Rage a sorti un premier album en 2022. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous étiez en train de travailler sur un nouvel album. Où ça en est à ce stade?
La bonne surprise aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a déjà deux nouveaux morceaux qu'on va jouer pour la première fois en live pour l'Outfest. Donc on voulait leur faire une petite surprise. Et donc on a l'album est composé vraiment on va dire à la base. Après, il faut élaborer les morceaux, voilà, roder, et puis voilà. Mais donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de munitions pour le prochain album.
Vous avez une date à peu près, horizon 2024?
Non, ça sera soit avant les vacances scolaires, enfin, soit avant l'été, quoi, soit après. Donc, ça sera soit mai, soit septembre. Parce que bon, il y a des sorties d'albums qui ne sont pas vraiment efficaces pendant les vacances scolaires.
Oui, c'est vrai, il ne faut pas que ça passe très inaperçu, entièrement d'accord. À part aujourd'hui, donc le Outfest, quelles sont vos prochaines dates?
Donc on a le Damned Soul en fait à Durbuy et après en fait on est en attente de beaucoup de contrats. En fait on a postulé pour la plupart des gros festivals, comme malheureusement l'année passée on n'a pas pu le faire parce qu'en sortant un album en novembre 2022, tout 2023 était déjà pris en fait, et donc voilà, donc on a tous les contacts, on a tout envoyé maintenant, donc on attend les signatures, voilà. Donc on espère vraiment faire beaucoup beaucoup de festivals en 2024.
Ben, ça revient un peu à la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de Titans Rage en fait?
Un deuxième album magnifique, des beaux beaux concerts en fait. Voilà, c'est ce qui est important pour nous, quoi. Voilà. Et puis plein public. Et puis surtout, petite information, venez nombreux ici à la Toest, parce que c'est important, parce que c'est une équipe technique vraiment qui bosse énormément, ils sont au taquet pour tout, l'accueil était magnifique, la scène est magnifique, franchement, c'est vraiment très très bien organisé, et j'espère que tous les années suivantes, ça sera un des plus grands festivals de France, c'est important.
Ok. En tout cas, je vous remercie pour cette petite interview.
C'est moi qui te remercie.
Vous voulez rajouter quelque chose pour nos auditeurs, pour les fans de métal? Là, trois albums de chevet pour vous? Si vous avez trois albums de chevet pour vous, vous emmènerez sur une île déserte?
Alors, moi, mon album de chevet, je parle que pour moi, pas pour ta question de singe, c'est Page Coverdale. Pourtant, il a été vraiment décrié par beaucoup de gens, en fait.
C'est celui avec le panneau de signalisation et le ciel
derrière. Oui. Et donc, le Coverdale arrivait à faire quasiment du Led Zeppelin et du Whitesnake avec une voix performante terrible. Jimmy Page, il s'est adapté. Ils ont fait vraiment. Pour moi, l'album est parfait. Je dirais un autre album parfait, c'est il y en a même deux, en fait, c'est les deux suivants, des Accept, avec Metal Heart et puis...
Russian Roulette.
Bon, pour moi, il n'y a rien à acheter, c'est vraiment des... Voilà. Et puis, n'importe quel album de Deep Purple.
Votre marque préférée de Deep Purple?
Le Deep Purple, le membre préféré.
Le line-up.
Ah, le line-up. Le début, avec Ian Gillan. Enfin, même pas le début, pas avec Mark Evans. Ian Gillan, moi, je suis fan du Ian Gillan. Donc, après, tout est bien. De toute façon, je veux dire, moi, j'ai toujours suivi tout ce qui est après Deep Purple. Parce que quand on prend Deep Purple, on arrive à Rainbow. On arrive avec Deep Purple, il y a eu Glenn Hughes, il y a eu Coverdale, Rainbow, il y a eu John Lynn Turner, il y a eu Dio, il y a eu... comment ça s'appelle Bonnet.
Ben oui.
C'était lui, Bonnet. Moi, franchement, en tant que chanteur, en fait, moi, j'écoute Bonnet. Je chante pas pendant deux jours. Je pleure pendant deux autres jours. Et je retravaille.
D'accord. En tout cas, je vous remercie pour ce moment très sympathique à votre...
C'était plaisant pour moi aussi.
On a hâte de vous retrouver sur scène tout à l'heure pour secouer le Hot Fest comme il se doit.
Ça sera avec un énorme plaisir.
Merci beaucoup. Salut à tous.
Salut.
Alors, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? On est avec Camille Zolka, je suis avec...
Nico.
Kevin, le guitariste.
Et Lionel, le chanteur.
Alors, pour commencer cet entretien, comment est né Camille Zolka et pourquoi vous vous appelez ainsi?
Alors, le groupe, il est né en 2015, donc avec mon frère qui est le chanteur. Vu qu'on a un petit studio à la maison, ben, ça nous permet de faire des petites chansons ensemble. Après, il y a le beau-frère qui nous a rejoint.
C'est moi.
Il est là-bas, c'est celui qui boit. Et après, ben, on a posé une annonce, on a trouvé Nico.
Qui est à la basse, en fait.
À la basse. Pareil pour la chanteuse Marie. On a eu un premier batteur. Et puis là, dernièrement, 2019, il y a Anthony qui nous a rejoint. Et voilà, qui apporte une dynamique bien bourrine.
Bah ça revient à ma deuxième question, c'est comment coexistons dans une formation de 6 personnes? C'est quelque chose de mûrement réfléchi ou ça s'est fait complètement ainsi?
Alors l'objectif c'était vraiment d'avoir deux chants, ça c'est sûr. C'est parce qu'on voulait avoir plus de possibilités dans les chants qui s'entremêlent un petit peu, des questions-réponses, des choses. On voulait du dynamisme en fait par rapport aux chants. Donc, et puis comme on était deux guitaristes, plus un batteur, plus un bassiste, ça fait 6 quoi, donc on n'avait pas... voilà.
Et pour le moment, le groupe n'est pas signé sur quelconque label. C'est un objectif de signer sur un label où la formule est meilleure en étant complètement indépendant?
Bah, je t'avoue, en fait, on a très peu de retour sur les labels. On ne sait pas trop comment ça marche. C'est pour ça qu'on on demande un petit peu à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Et on a eu une réponse dernièrement. On nous a dit, les labels, ils servent à tout ce que vous ne savez pas faire. Par exemple, en professionnel, le marketing, par exemple, des choses comme ça. Donc effectivement, l'objectif, c'est quand même de trouver un label et de trouver un deal. Alors après, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais voir ce qui est possible de faire.
Il y a cette même femme présente sur chacune des pochettes de vos sorties. Est-ce qu'elle a une importance, une histoire, et surtout au vu du nom des sorties, hein, comme un lien Awakening, Rising et Exile?
Ouais, en fait, on voulait faire un petit peu. On est fan de jeux vidéo, de manga, tout ce qui est culture japonaise, quoi. Et on voulait faire une espèce de personnage qui est... Alors, les paroles ne sont pas liées directement au personnage, mais à chaque fois, on essaie de le faire évoluer pour donner de la consistance. Donc, c'est toujours le même personnage. Alors, comme il n'est pas dessiné par les mêmes personnes, bah, du coup, il change un petit peu. Mais oui, l'idée, c'est d'aller prendre des thèmes qu'on veut trouver dans les jeux vidéo. On est fans de Silent Hill, par exemple. Donc voilà, on va piocher là-dedans, soit en tout cas pour les trucs un peu surnaturels et tout. On va piocher dans le Tokyo Ghoul, par exemple. Ce genre de trucs.
Qu'est-ce qui vous a principalement influencé dans vos compos?
Musicalement, c'est beaucoup de hardcore en fait.
Ouais, c'est le hardcore pour le fun que ça procure sur scène et dans le pit, quoi. Et le hardcore c'est très dansant, même si ça se tape dessus, c'est très dansant quand même. Et ouais, c'est le côté groovy un petit peu du hardcore. Après, on vient tous.
Il
n'y a pas que ça, on vient beaucoup du métal, on vient tous du métal, du black,
du thrash, du death.
Bon, Magic Pop quoi.
Donc, voilà, ouais. Et du coup, on essaye de mettre ça tout ensemble et puis faire que la compo ait du sens aussi, tu vois.
Ouais, en fait, le deuxième cas de Camille Zolka, c'est pour karaté.
Karaté, couille, non, couille avec un cas. Ouais, karaté.
Oh,
ouais,
bon, on l'écrit comme on veut. Hein.
Voilà.
Yeah.
struggle with black belt. Taste the pain and the suffering I felt. Swarm revenge, pissed like Godzilla. Beat you up as hard as Sonny Chiba.
Paper to brush! Oh, oh. You lost this scum! Oh, oh, oh. Paper to brush! Oh, oh. You lost this scum! Oh, oh, oh. Paper to brush! Your life is just fucking gone! Paper to brush! Oh, oh, oh. Paper to brush! Your life is just fucking gone!
Vous jouez au Hotfest ce samedi 30 septembre et est-ce que l'aspect caritatif et solidaire du fest vous a un petit peu motivé à venir jouer?
Merci. Plus que ça, ouais.
C'est carrément ouais. Ça qui nous a motivé à venir jouer. Déjà, on a eu un super bon contact avec le personnel du Hotfest, tout ça, avec Matt et tout. Et donc, on a vraiment eu un contact très simple, très sain. Comment dire, très
authentique,
humain, authentique. Puis c'était vraiment copain.
Ouais.
Salut, tu vas bien, machin. On a eu l'occasion de le voir au Hellfest, en plus, de se croiser au Hellfest. Donc en plus, on s'est rencontrés avant le Hellfest. Et puis oui, le fait que ça soit une œuvre caritative, ça a pas de prix, tu vois.
Ouais, on rappelle que c'est la majorité des sous à dire engrangés ce soir, ça ira pour deux associations. Donc,
voilà, c'est ça. C'est cool. Même nous, on va essayer de mettre en place, on a mis des 10% sur le merch, des choses comme ça, parce que voilà, l'important, c'est de partager des trucs.
Voilà,
et aussi, et la solidarité, c'est ce qui est le plus important. Dans le hardcore, en tout cas, c'est une valeur. Dans le métal, c'est une valeur. On est d'accord, et la solidarité, c'est très important. Donc pour des œuvres caritatives, faut foncer, faut pas se poser mille questions.
Bah, vous faites bien de parler du Hellfest. Vous avez joué à la Warzone du coup ce dernier Hellfest en 2023. C'était comment?
C'était énorme. Bah ouais, on est les vainqueurs du Voice of Hell en fait. J'ai postulé en fait au concours et de se retrouver dans les 10 premiers, enfin les 10 derniers groupes, c'était déjà énorme. Mais en fait, on est allé jusqu'au bout parce que déjà de voir ça, de se retrouver dans les 10 premiers, c'est on n'y croyait pas. Et sincèrement, ouais, on a vraiment poussé le truc plus loin et du coup, on s'est retrouvé propulsé être vainqueur et surtout à jouer sur cette scène mythique de la Warzone. Et sincèrement, ouais, c'était limite un rêve, une consécration pour nous parce que on y était allé déjà une première fois en 2018 en tant que festivalier. On avait joué déjà au Hellfest Cult, mais c'est en dehors, c'est dans la partie festivalier. Mais sincèrement, de se retrouver propulsé sur cette scène-là, de voir tout ce monde, vraiment, c'était une grosse pression énorme, mais on s'est vraiment régalé.
Il y avait un truc qui était marrant, c'est que peut-être 20 minutes avant que ça commence, il n'y avait personne sur la Warzone. Il y avait une trentaine de pèlerins qui passaient, et du coup, je disais, putain, il va y avoir personne. Enfin, je dis, c'est pas grave, comme ça, on monte sans pression. Puis on est descendu discuter un peu, on est remonté, on a ouvert. Et donc là, on a vu que ça s'était, ils avaient tout ouvert, je sais plus, il y avait des problèmes à l'entrée en fait. Et là, c'était plein. On a fait, putain, mais on est dans la merde.
Et même
le mec du Voice of Hell, Nicolas, qui nous suivait en fait, il nous a dit, que j'avais une pression de malade. Je disais, mais putain, j'espère qu'ils vont réussir, comment ça va se passer.
Ça va être un gros bordel quoi.
Voilà. Et dès qu'il a entendu le premier truc, il a dit, ça s'est rassuré, on voit, ça va être fun, on va bien s'amuser. Puis en fait, de toute façon, il faut prendre les. C'est juste. Un peu plus de monde.
Ouais,
c'est tout. Mais l'énergie que tu développes, ou tu fais la même dans tous les concerts. Hein.
Du coup, maintenant, vous êtes moins stressé ce soir pour le Hotfest.
Moi, je t'avoue, j'ai toujours un peu de stress. Et le côté, le stress, un peu des techniques.
Ouais, le
technique. Tu vois que
c'est du spectacle vivant, donc on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, enfin de petits coups de technique ou des choses comme ça. Mais ça, c'est à nous de gérer. Ça peut arriver. Mais après, ouais, un stress plutôt
positif.
C'est du stress positif. Voilà.
Parce qu'en fait, t'as envie de
faire. Bien faire.
Ouais, exactement. T'as envie de bien faire pour les gens. C'est vraiment pour les gens. C'est pas un truc perso. C'est vraiment pour les gens.
Tu partages à fond.
T'as envie d'être bon pour eux.
Ouais.
Parce que les gens, parce que s'il n'y a pas de public, t'existes pas. C'est grâce aux gens que t'existes. Donc il y a toujours un petit peu de trac parce que t'as envie de donner le meilleur toi-même. Mais bon, tu te rends compte que demain, même si tu te casses la gueule de la scène, il n'y a personne qui va te faire qui va te regarder comme un mongol, tu vois, tout le monde se souvient quoi.
Et si ma maman ne me fait pas défaut, puis vous l'avez même dit au début de l'interview, Camisolka a eu deux batteurs. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qu'on ressent au moment de devoir changer de musicien? Enfin, c'est quelque chose de pas banal.
Non, c'est pas banal, mais c'est surtout que lui, il nous a ramené, le nouveau batteur, Anthony, il nous a ramené toute sa rage. Et sincèrement, c'est lui qui a enregistré le Exile. Et sincèrement, on a fait quand même un bond en fait en avant, parce que sincèrement, tout ce qu'il a apporté, c'est ouais, c'est...
Bah, il vient du death metal, il a fait de la session pour Minority, des groupes comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a une frappe. Violente.
Ça bourrine quand même.
Ça bourrine. Et du coup, d'avoir de. C'est son premier groupe de hardcore dans lequel il joue. D'avoir de l'espace comme ça, dans le hardcore, vu que c'est beaucoup plus aéré et tout, bah, ça lui permet de faire des trucs géniaux. Quoi. Bah, lui, il dit qu'il s'éclate vraiment parce que c'est moins strict que dans le death. Et du coup, il peut se permettre plein de choses, des breaks de ouf, des choses qu'il fait pas d'habitude. Donc en fait, non, on retrouve le dynamisme et la violence de sa frappe et tout ça. Et lui, quelque part, il apprend des nouveaux trucs, comme il dit, je teste des trucs, quoi, c'est super cool.
Ça fout bien.
Même si bon, elle est pas là, Marie, ouais. Est-ce que sa voix brutale est bien puissante? Elle l'a eu de base, c'est inné, ou elle l'a travaillé?
Je sais qu'elle la travaille beaucoup chez elle, mais moi, quand elle a passé la... Alors, elle n'a pas passé une audition, hein, elle m'a envoyé un message WhatsApp où elle gueulait, quoi. Et du coup, parce que j'avais bien aimé l'annonce et tout, donc j'ai écouté, j'ai fait « Putain, c'est bon, t'es engagé. » Ça gueulait bien, tu vois. Et c'est après, quand j'ai eu au téléphone, que j'ai su que c'était une fille, parce que je savais même pas.
Elle l'avait pas précisé.
Nous, ce qu'on voulait, c'était un chant scream qui combine, que Lionel puisse combiner avec. Et voilà, et elle a, c'est vrai qu'elle a une voix qui vient des cavernes un petit peu. Lui, il a une voix plus, comment dire, rap, un peu plus rock, quoi, plus... tout comme ça. Elle a des screams très hauts et des rôles bien avec l'exer et tout ça. Donc voilà, ça se marie bien.
Et puis le fait que ce soit une meuf, surtout, ça peut aussi être. C'est génial, quoi.
De toute façon, il faut être honnête. Hein, si tu mets en miniature sur YouTube, si tu mets ma gueule et tu mets celle de Marie, il y a beaucoup plus de gens qui cliquent sur Marie. Non, mais ça joue, oui. Et puis c'est bien cette dualité homme-femme. Mm. Ça, on sent quand même qu'il y a une dualité dans les voix. Maintenant, si les gens arrivent à faire la différence, je sais pas, je pense pas. Nous, parce qu'on la connaît bien, donc on arrive à faire la différence, mais je pense pas.
Moi, je te le dis à première impression, parce qu'on me l'a dit après, c'est une chanteuse. Ça te met sur le cul, mais c'est génial en fait, c'est génial. Et pour conclure cet entretien, quid des nouveaux projets, des dates à venir?
Alors, il y a des dates, alors c'est un festival par mois jusqu'à décembre. Et là, on va enchaîner avec Anjou du Rock, c'est la semaine prochaine, c'est le 7 octobre. Ensuite, c'est à Annemasse, c'est le Mushing Dead, et c'est le 3 novembre. Ensuite, on enchaîne avec le Beaujolais Fest, c'est dans notre région à Lyon, et ça, c'est le 4 novembre.
Avec Tagada.
Avec Tagada Jones,
ouais. Rien que le Beaujolais ou pas, le Beaujolais
Fest? Ouais, c'est en lien, ouais, c'est justement ça en lien.
C'est en lien, ouais.
Mais je crois qu'il sort un petit peu avant, hein, le Beaujolais, donc il sera déjà sorti. Et donc ensuite, on va enchaîner le 10 novembre, c'est le Moselle Open Air. Donc en Moselle. Et là, il y a une nouvelle date qui vient de tomber et c'est un festival, donc c'est
Limoges,
le 15 décembre.
Ok.
Alors ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on va pas s'arrêter là, on va passer en studio et sortir des singles en fait. On est en pleine composition et voilà. Donc,
il y a de l'actu qui arrive,
donc restez connectés. Et d'autres dates sont prévues pour 2024.
Donc ouais, ça chante pas.
Non, ça chante pas. Il y a un clip aussi live qui va sortir justement avec tout le, on va dire tous les différents passages qu'on a pu avoir cet été pendant toute la période estivale.
Tous les festivals là, et puis voilà, c'était dommage de pas garder une trace de ces festivals là qu'on a fait cet été. Hein. Donc il y a ça, le Minute for Youth, la Warm Up, le Hellfest et le
Planet Fest.
Et si je peux me permettre,
ouais.
Est-ce que vous avez des rêves à accomplir, genre une affiche de rêve avec qui vous aimeriez partager l'affiche, ou vu que vous avez déjà fait le Hellfest et la Warzone, Wacken, l'Extreme Fest,
continuez.
Extreme et Wacken.
Ouais, il y a le Wacken. Ouais.
Wacken, j'aimerais bien.
Moi, je dirais aussi en festival, on va dire français, parce qu'il y a aussi, il y en a quand même pas mal en France, et il y a le Motoculteur, il y a l'Extreme Fest.
On veut jouer dans la case.
666
Fest.
Mais en fait, ouais, on veut pas s'arrêter là. Sincèrement, on aimerait que s'ouvrir les portes de partout. sincèrement.
Parce que clairement, par rapport à ce que vous véhiculez, le message, clairement, vous avez votre place à l'Extreme Fest. Moi, j'y vais quasiment, c'est toutes les années. Et c'est vrai que dans la X-Cage, ouais, je pense que vous...
Ça serait du bonheur.
Ouais, vous feriez un malheur. Hein.
Merci, merci pour le compliment, mais c'est vrai que nous, on postule.
Asso Pollux, si tu nous entends.
Voilà, on postule, c'est vrai qu'on a envie de jouer dans cette cage.
Et puis... Pour finir, vous avez un petit mot à partager, enfin un petit message à porter.
Moi, j'aimerais remercier tout le monde, en fait, les gens, surtout pour le soutien, vous remercier pour l'interview. Et on a cette volonté de vouloir partager notre musique avec tout le public. Et voilà, faire la fête, on est tous là pour faire la fête ensemble. Il n'y a pas de barrière, donc nous, on adore faire venir du public sur scène et vraiment. C'est que du bonheur. Donc venez, il n'y aura pas de problème.
À tous les concerts, il y a toujours moyen de monter sur scène. C'est ça l'objectif. On essaye de s'arranger pour que tout le monde puisse
rentrer. En mode suicide alternative.
En mode suicide, donc voilà.
Merci à vous.
Oh, super, merci les gars. C'était Camille Zolka sur PFM. Eh bien, 25 ans de scène pour les Nat Scientist. Votre musique a évolué au fil du temps et a incorporé différentes influences. Comment décririez-vous l'évolution sonore de Nat Scientist depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui?
Je pense qu'on se cherchait un petit peu. On avait une idée d'où on voulait aller. Et puis, en fait, ce qui en est sorti, c'était très basé dans le punk rock et dans l'immédiateté, dans la spontanéité. Et petit à petit, on a commencé à... avec le temps, à découvrir notre son en même temps que tout le monde, en fait, d'album en album, avec des petits ajouts par-ci, par-là. Et je pense que sur ce dernier disque, c'est le disque sur lequel on a été le plus loin dans nos idées et où on a osé vraiment assumer à fond nos envies et vraiment... avant, on trempait les doigts de pied dans la piscine et là, pour cet album, on a sauté dans la piscine, quoi.
Et du coup, comment ça se caractérise? Qu'est-ce que vous vous étiez empêché de faire jusque-là et là vous vous êtes lancé? Comment vous le sentez? Ce que vous avez fait sur cet album-là qui allait plus loin?
Je pense que c'est pas une histoire de s'empêcher des choses. Je pense que c'est déjà la manière de composer qui a évolué. Au tout début, on composait énormément, tous les quatre dans la même pièce. Donc il y avait, comme disait Ed, beaucoup de spontanéité parce qu'on composait tous les quatre. Alors que maintenant, on s'est tous un peu séparés au niveau habitation. Et donc on compose, Ed compose beaucoup chez lui, en fait. Et après on réunit tous ensemble. mais du coup ça expérimente avec les logiciels de son, etc. Donc la manière de composer déjà y est aussi, je pense, pour beaucoup.
Ouais, c'est sûr. Et un autre truc aussi qui a aidé à l'évolution, j'ai envie de dire, c'est la période de Covid. Tout ce temps qu'on a eu à se faire chier, et ben, ça a donné du temps à expérimenter des trucs. Et moi, du coup, je me suis retrouvé à composer des zik qui n'étaient même pas forcément dans l'idée pour Not Scientist. Mais il y en a certaines où je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas, je vais l'envoyer aux autres, on va voir ce qu'ils disent, quoi. Et puis, on a trié un peu tout ça et on a gardé ce que tout le monde a aimé.
Ouais, il y a une petite touche New Wave un peu quand même là-dedans.
Petite touche, ouais. Mais il y avait déjà des petits clins d'œil sur l'album d'avant au niveau sonorité, mais c'est l'idée de ce groupe, c'est un peu ça. Je crois que d'album en album, à chaque album, on trouve des trucs nouveaux qu'on aime bien et on les pousse un peu plus loin sur l'album suivant. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, mais comme je disais, cette période de Covid a vraiment laissé beaucoup de temps pour composer, expérimenter des trucs, et donc au bout de 3 ans, il y avait des choses. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid et qu'on avait dû sortir un album avant, on aurait peut-être mis 2 albums pour arriver où on en est sur celui-là, quoi. Influencé par The Cure, et c'est sûr que ça ressort plus sur ce disque que sur les autres, et mais pour moi c'est un compliment quand on me dit putain, votre musique me fait penser au Cure. Moi je me dis bah merci. On n'essaie pas de les copier, mais c'est vrai que c'est un groupe qui est une grosse influence pour certains d'entre nous, et je prends ça comme un compliment.
Et votre nouvel album, du coup, il s'appelle Stare at the Sun. Vous avez pas peur de vous faire mal aux yeux?
Mais justement, c'est ce qu'on fait tous les jours.
Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui a fait que Stare at the Sun s'est imposé comme le nom de l'album? C'est aussi le titre d'un morceau, bien sûr, mais qu'est-ce qui a fait que c'était celui-là?
Parce que, en fait, être dans un groupe, comme on le fait nous, c'est-à-dire à fond, ça demande. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, parce que c'est pas toujours facile, il faut faire beaucoup de compromis, niveau vie sociale c'est pas terrible, Enfin, tu vois, c'est, y a, je pense que la plupart des gens ne feraient pas ce qu'on fait parce que comme ça, ils s'imaginent des choses, mais s'ils venaient une semaine avec nous en tournée, ils feraient waouh, non merci, je rentre chez moi, quoi. Donc, c'est un peu comme si on se flagellait parce qu'on aime tellement ça. Donc, l'histoire de. C'est un peu comme si on nous dit quand on est gamin, faut pas regarder le soleil, ben, nous, on regarde quand même un petit peu.
Alors, ouais, vous avez recherché, vous avez fait quand même pas mal de recherches de nouveaux sons, ça vous a amené à explorer différents équipements, des effets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les instruments, les équipements que vous avez utilisés pour créer toute l'atmosphère de ce disque ?
Eh bien, une fois qu'on a eu fini l'album, justement, la grande question, c'était comment on va reproduire tout ça sur scène ? Donc, trouver quelqu'un pour rejoindre le groupe en plus, pour jouer des synthés, c'est compliqué. Enfin, l'alchimie d'un groupe, c'est vraiment très particulier à trouver. Et rajouter une personne en plus, c'est pas impossible que ça arrive un jour, mais là, tout de suite, on n'a pas... ça s'est pas fait comme ça, quoi. Donc, on a travaillé justement avec un copain pour ces quelques morceaux où il y a des instruments qu'on peut pas jouer, nous. C'est Basile qui s'en charge avec des samples. Donc ça c'est vraiment très nouveau pour nous. C'est un nouveau jouet qui nous plaît bien. Et donc voilà.
Ouais, alors effectivement il y a 4 chansons où on utilise donc l'outil c'est un SPD-SX. Et donc moi je lance en fait toute une nappe. Et donc effectivement il faut jouer sur le clic pour être synchro avec ce qui est diffusé. Et en fait, on a fait 2 jours de résidence pour caler tout ça. 3 jours, je ne sais plus.
Deux, trois jours.
Pour caler tout ça, en fait, et caler avec déjà au niveau sonore avec la façade. Et puis que nous, on soit au point avec le clic, etc. Mais après, on est habitué à jouer au clic de toute manière en studio, etc. Donc après, la mise en place entre nous a été assez rapide. Et puis voilà, puis tout roule. Mais c'est sûr que les premiers temps, c'était quand même un gros stress supplémentaire. Parce que bon, bah, en live, si tu te décales ou si tu retournes le temps ou quelque chose, bah, t'es plus sur le... Donc au départ, c'était un gros stress, mais tout se passe bien, c'est cool.
Comme Basile est un excellent batteur, on a zéro problème. Alors, on a de la chance de travailler avec un ami à nous qui est très doué et qui a fait toutes les pochettes du groupe depuis le début, dont celle-ci, sur laquelle il a collaboré avec une photographe qui s'appelle Paloma Cortés. Lui, c'est Dr Lulu. Et nous, chaque fois qu'on fait un album, on le finit, on lui envoie les morceaux, les paroles, on lui donne le titre du disque, on lui dit voilà, il nous faut une pochette et il nous renvoie quelque chose. Et en général, il n'y a pas plusieurs propositions. La première, elle nous plaît toujours. Et là, ils nous ont envoyé ça. En fait, ils ont imaginé ça par rapport à ce que nous, on leur a donné. Et on a fait waouh, c'est mystique. C'est le genre de pochette, quand tu l'as surtout en vinyle, t'écoutes le disque, un peu comme on faisait avant, qu'on fait moins maintenant qu'on écoute Spotify et compagnie. En fait, t'écoutes le disque et tu regardes la pochette en même temps et tu t'imagines des trucs, en fait. Enfin, moi, je sais que ça me fait ça. J'imagine, je sais pas. Moi, je vois un espèce de personnage mystique qui aurait pu être dans Dune ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas.
En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
Alors, cassette, non, pas pour celui-là, pas encore. Et il est en CD et il y a trois versions de vinyle. C'est les couleurs de vinyle qui changent.
C'est votre label qui a décidé ça ou vous avez poussé pour qu'il y ait ça
Bah, nous, on a, côté personnel, on a toujours aimé les beaux vinyles avec plein de couleurs différentes. Donc nous, c'était une volonté et le label, il est à fond pour ça aussi. Donc on est parti là-dessus aussi.
Puis on a un label en France, Kicking Records, qui l'a sorti d'une couleur. Et on a deux labels en Allemagne qui travaillent ensemble et qui ont fait un autre coloris. Et il y a un troisième pour nous qu'on va en concert.
C'est vrai aussi que sur l'ensemble de votre carrière, vous avez pas mal bourlingué, vous avez eu pas mal d'opportunités à l'international. Là, vous avez d'autres tournées internationales qui se profilent en vue ou...
Tout à fait. On a, fin octobre, début novembre, on a une tournée de 10 jours en Espagne, calée par HFMN. Et après, en janvier, on a une semaine et demie de tournée en Allemagne.
Non, c'est la deuxième fois qu'on vient. Et alors, malgré le fait, moi, je suis un fils du métal. Moi, j'ai écouté du métal d'abord quand j'étais gamin. On en parlait tout à l'heure quand j'ai vu ta casquette Sepultura. La première cassette que j'ai eue de ma vie, moi, c'était Arise de Sepultura. C'est ma grand-mère qui me l'a achetée. Elle m'a dit, choisis une cassette. J'ai choisi celle-là. Elle a dit, mais t'es fou. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai dit, si, je veux. Bon, elle me l'a achetée. Voilà. moi, j'adore. Je suis dans mon élément. Et je sais que notre groupe est un peu à part. Et la première fois qu'on a joué au Motocultor, on était contents, mais on n'avait pas une appréhension, mais on s'est dit, comment ça va passer ? C'est un festival de métal quand même, on n'est pas du tout un groupe de métal. Donc on s'est dit, ça se trouve, les mecs, ils vont nous jeter des tomates, quoi. Et en fait, ça a été tout le contraire. Il y a eu des Circle Pits, c'était mortel, super concert. Donc là, on est arrivé, on savait que ça se passerait bien, quoi. Et ça s'est hyper bien passé.